Pas si simple. Le podcast qui promet de la nuance et du respect dans le brouhaha médiatique. Thème du jour, Trump, la loi du plus fort.
On avait beau connaître le personnage. Donald Trump, depuis son élection à la présidence des États-Unis, ne cesse de nous sidérer par ses annonces. Sur la scène internationale, il rompt avec le langage habituel de la diplomatie. Multiplie les menaces de guerre économique, affiche des ambitions de conquête de territoire face à une communauté internationale qui semble aussi abasourdie qu'impuissante.
Pas si simple est un podcast proposé par Le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines Sociales de France. Animé par Éric Payet, Étienne Pépin et Isabelle de Golemin.
Sylvie Berman, notre invitée, a été notamment ambassadeur de France en Chine, en Grande-Bretagne et en Russie, trois pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle connaît par expérience la mécanique des relations diplomatiques, leurs dessous et leurs faux-semblants, de quoi jauger l'effet Trump.
Pas si simple, saison 2, épisode 5, prise 1.
Sylvie Berman, Madame l'Ambassadeur, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin avec Étienne Pépin de RCF et Isabelle de Golemin, présidente des Semaines Sociales de France. On va avec vous essayer de décrypter ce personnage bien énigmatique qu'est Trump. On est tous un peu abasourdis par les déclarations qu'il enchaîne depuis son élection, même les choses qu'il met concrètement en place dans son pays. Vous, comment est-ce que vous voyez ce personnage installé? Vous êtes abasourdi comme nous ou alors ça fait partie de l'esbrouf?
Alors, je ne suis pas abasourdi parce que c'est une réélection et que j'ai connu son premier mandat qui avait constitué effectivement une surprise. Il avait déjà annoncé un certain nombre de choses. Il n'était pas en mesure de les mettre à exécution parce qu'il n'avait pas d'équipe à lui, parce qu'il était débutant et qu'il y avait ce qu'on appelle les adultes dans la pièce qui veillaient à ce que les choses ne débordent pas. Et donc, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Mais là, il a eu le temps de se préparer, de constituer des équipes avant d'arriver au pouvoir, et donc maintenant il fait ce qu'il veut.
Est-ce que ça veut dire que là on a le vrai Trump, on aura un mandat qui lui ressemble davantage encore ?
On aura un mandat, oui, qui lui ressemble davantage parce qu'il sait vraiment ce qu'il veut. Et que le problème du premier mandat, c'est qu'il y avait eu un procès en inéligibilité à cause des ingérences russes. Donc beaucoup de démocrates disaient qu'en fait, il n'aurait pas dû être élu et que c'était grâce aux ingérences qu'il avait pu être élu. Il y a eu un rapport qui a été fait, il y a eu des ingérences, mais il n'y a pas eu de collusion. Et on voit bien aujourd'hui, puisqu'il en était encore mieux élu, avec la totalité du pouvoir, le Sénat, la Cour suprême, à la fois Sénat, Chambre des représentants. Et donc, aujourd'hui, il peut faire ce qu'il a vraiment en tête.
Chloé Ridel, députée européenne socialiste, France Info, le 7 novembre 2024.
Donald Trump, c'est une politique du « rien à foutre ». Le réchauffement climatique existe, s'empire, mais rien à foutre. Je sors des accords de Paris, je rouvre des usines à charbon, ça va faire du mal à des centaines de millions de personnes dans le monde, ça va aggraver le problème, mais j'en ai rien à foutre.
Charles Consigny, avocat, c'est l'hebdo France 5, le 9 novembre 2024.
Je considère que Trump est très largement diabolisé et qu'on refuse de voir ce qu'il représente en termes de liberté, en termes de lendemain qui promettent. On refuse de voir que beaucoup de gens croient en lui.
Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, France Inter, le 8 janvier 2025.
Nous sommes entrés dans une époque qui voit le retour de la loi du plus fort. La réponse est oui.
Marion Maréchal, députée européenne et présidente d'Identité Liberté, CNews, le 20 janvier 2025.
La victoire de Donald Trump et ce volontarisme qu'il affiche, avec d'ores et déjà quelques décrets signés sur ces sujets, nous donne bon espoir de pouvoir importer, si je puis dire, ces succès et ce combat culturel jusqu'en Europe, et évidemment en particulier en France.
Jacques Weber, comédien, RTL, le 25 janvier 2025.
Moi, je suis absolument sidéré, estomaqué par la phasie qu'il y a autour de Trump, par la façon dont les gens acceptent. Moi, j'entends dans la rue, dans les bistrots, partout. Oh, finalement, il va faire bouger les choses.
Éric Ciotti, député Union des droites pour la République, BFM TV, le 27 janvier 2025.
Regardez hier, il envoie des avions en Colombie pour envoyer des migrants clandestins. Le président socialiste de Colombie dit « je ne les veux pas », ils reprennent, ils repartent. Trump, immédiatement, a dit « vous ne les voulez pas ?» Sanctions douanières, sanctions économiques. En 20 heures, le président colombien a changé d'avis.
Pas si simple. Invité du jour, Sylvie Berman.
Sylvie Berman, dans les quelques phrases qu'on a entendues, désormais c'est la loi du plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer dans le rapport international, dans le rapport de force international que...
Oui, tout à fait. La loi du plus fort, c'était un peu la loi de Poutine par rapport à l'Ukraine, qui est condamnée par les démocraties. Et aujourd'hui, c'est également la loi du 47e président des États-Unis. Évidemment, ça change les choses. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il a tendance à cibler davantage ses alliés, comme le Danemark, par exemple, sur le Groenland, que ses adversaires. Il est prêt à parler avec Poutine, ce qui se conçoit tout à fait pour régler la guerre en Ukraine, mais il le ménage davantage que les Européens. Il a sûrement plus de respect pour des hommes forts comme lui que pour les démocrates européens.
Est-ce que ça peut changer les rapports géopolitiques dans le monde? Est-ce que Trump, qui veut régler en 3 jours le problème russo-ukrainien, qui intervient en Israël, est-ce que...
Avec un certain succès.
Avec un certain succès, il faut bien le reconnaître là. Est-ce que cet homme fort-là peut changer la donne sur le plan géopolitique aujourd'hui?
Alors oui, il peut changer la donne. Et d'ailleurs, bon, vous venez de citer le Moyen-Orient. Et je considère qu'il a eu, sur l'Ukraine et sur le Moyen-Orient, des discours performatifs. C'est-à-dire que il a créé en réalité ce qu'il annonçait. Il y a eu une mise en demeure aux Israéliens et au Hamas pour qu'il y ait un cessez-le-feu, une libération d'otages avant son investiture, et c'est ce qui s'est passé. Et on se souvient que lors du premier mandat, il avait quand même eu une réussite diplomatique qui était les accords d'Abraham. Donc oui, ça peut effectivement changer la donne, parce qu'il fait peur, et il y a ce qu'on appelle aussi la stratégie du fou, c'est-à-dire vous ne savez jamais ce qu'il peut faire, et donc vous vous méfiez, vous mettez en position de négociation. En ce qui concerne l'Ukraine, régler le problème en 24 heures, c'est un peu une figure de style. Ça veut dire que bon, il sait quelle peut être la solution diplomatique, et depuis qu'il a annoncé ça, aussi bien les Ukrainiens que les Russes considèrent que l'idée d'une négociation n'est pas tabou. Zelensky a avoué qu'il ne pourrait pas reconquérir les territoires perdu au Donbass. Il admet maintenant qu'il faudra négocier, et Poutine dit qu'il est prêt à négocier. Alors, ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre sont prêts évidemment à tout céder, mais je pense que Trump, qui s'est donné maintenant 100 jours, voire 6 mois, va un petit peu envoyer ses éclaireurs, son envoyé comme Kellogg, pour voir quelles sont les lignes rouges des uns et des autres et sur quoi on peut aboutir.
On voit que, comme vous le dites, il y a des résultats, et on voit bien aussi que dans le discours de l'extrême droite, alors française, mais européenne aussi, il représente un espoir aujourd'hui. Est-ce que ça, quand on dit le modèle de Trump, c'est exportable en France et en Europe, vous y croyez, ou est-ce que culturellement on a trop de différences ?
Alors, je pense qu'on a effectivement trop de différences. C'est pas étonnant. L'extrême droite aime les hommes forts, et l'extrême droite, avant la guerre en Ukraine, louait Vladimir Poutine et considérait que Vladimir Poutine était un exemple et que ce serait bien d'avoir un Vladimir Poutine en Europe. Donc, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, l'extrême droite pense que ça serait bien d'avoir un Donald Trump. C'est pas un idéologue du tout, et il se moque totalement de la démocratie, il se moque totalement des droits de l'homme, de tout ce que les Européens considèrent comme leurs valeurs. Donc c'est difficilement importable en Europe.
Mais c'est ça qui est assez étrange, c'est-à-dire qu'on était habitué à un discours venant d'un pays comme les États-Unis qui était censé incarner des valeurs, la liberté, la démocratie. Là, tout d'un coup, quand on dit c'est la loi du plus fort, c'est que tout simplement, ils ne s'encombrent plus de ces termes-là. Désormais, c'est ce que je veux, l'intérêt de mon pays, et c'est tout.
Oui, tout à fait. Et puis, bon, on rappelle toujours que c'est un homme d'affaires, un dealmaker. Il a publié un livre il y a longtemps qui s'appelle « L'art du deal », et c'est un peu comme ça qu'il se présente. Et donc, en fait, toutes ces annonces,
deals, hein.
Il aime faire des deals, toutes ces annonces, c'est du chantage, c'est du bluff, et il pense qu'il en restera quelque chose. Quand vous négociez l'achat d'un appartement ou la vente d'un appartement, bah, vous négociez. Il y en a toujours un qui met le prix, le vendeur met le prix trop haut, l'acheteur trop bas, et lui, il pense que c'est comme ça que ça se passe dans la vie.
Alors, on entendait Jacques Weber dire qu'il y avait une forme d'aphasie, comme s'il n'y avait aucune réaction face à l'élection de Donald Trump. Est-ce qu'on est face à une résignation, comme si c'était le chemin de l'histoire qui voulait cela ?
Alors, oui, les Européens sont quand même assez désemparés parce qu'ils n'incarnent pas la puissance. Au contraire, les Européens, c'est la règle du droit. Que faire ? Vous pouvez dire, oui, c'est totalement inacceptable. Mais dans les faits, vous l'acceptez puisque vous n'avez pas les moyens de vous y opposer. Il y a beaucoup de réunions entre les Européens à tous les niveaux pour savoir comment réagir à Trump. Mais quand vous avez effectivement quelqu'un qui est le plus fort, le pays... Le plus puissant du monde et un homme qui ne craint personne, qui ne craint pas de vexer, de blesser, qui ne s'intéresse pas aux principes diplomatiques les plus courants.
Mais quelle réaction est possible en face pour éviter de laisser le champ libre à Donald Trump, même s'il a été élu et très bien élu aux États-Unis? Quelle réaction sur le plan international, non pas pour contrer coûte que coûte Donald Trump, mais pour réagir et pour maintenir la relation avec lui au moins.
Bah, de toute façon, je crois que tout le monde est prêt à maintenir la relation et je crois que d'ailleurs, ils vont tous se précipiter de manière désordonnée à Washington pour essayer de sauver ce qu'ils ont à sauver.
Mais après avoir dit pique-pendre de Donald Trump.
Mais tout à fait, mais bon, ça c'est la vie internationale. Et en plus, encore une fois que vous dites c'est intolérable, c'est inacceptable, qu'est-ce que concrètement vous faites pour ne pas le tolérer ou ne pas l'accepter, au-delà des mots ?
On parle donc de violence. Vous qui avez observé quand même de près les arcanes, que ce soit à l'ONU ou dans les négociations au Conseil de sécurité, vous avez été ambassadeur dans 3 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que cette violence, au fond, elle a toujours été là et simplement a été un petit peu masquée, ou est-ce que là, vraiment, il y a quelque chose qui change ?
Alors, oui, ça change, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas là avant, parce qu'on a eu la période Bush, on a eu la période où John Bolton, qui a été, je crois, conseiller à la Maison-Blanche, et puis qui a également été ambassadeur de Bush à l'ONU, disait que si le 38e étage n'existait plus, personne... Le 38e étage, où c'est l'étage du secrétaire général des Nations Unies.
D'accord.
Donc vous avez un ambassadeur aux Nations Unies qui déteste les Nations Unies et fait tout pour les contrer. Les Américains se sont toujours retirés des institutions internationales qui s'occupaient de santé reproductive, des femmes, toutes. Ça a déjà été fait. Et puis, alors pas avec la même, je ne sais pas comment le qualifier.
Décomplexé.
Moins décomplexé, mais enfin, ça a été fait. Et la guerre en Irak, qu'est-ce que c'est ? C'est une guerre d'agression, comme on dit aujourd'hui pour l'Ukraine, non provoquée. Il y a eu des crimes de guerre, il y a eu des milices privées. Et en plus de ça, les Américains ont refusé la compétence de la Cour pénale internationale. Alors aujourd'hui, Donald Trump va plus loin puisqu'il sanctionne ou menace de sanctionner le procureur et les juges. Mais les Américains ont tendance à se conduire de cette manière. Alors les Européens essaient la négociation, mais aujourd'hui c'est plus difficile parce qu'il est plus brutal et que finalement ce qu'on peut penser, dire, lui est totalement égal.
Bonjour Mariette.
Bonjour. Pas si simple. Thème du jour, Trump, la loi du plus fort.
Le 20 janvier, Donald Trump a prêté serment devant plus de 200 000 spectateurs et des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Un véritable show sur lequel s'est penchée la sémiologue Mariette Darrigan. On a parlé de Donald Trump, la façon dont il se positionnait sur la scène internationale, avec pas mal de déclarations assez surprenantes. Et on a tous attendu ce moment clé de l'investiture pour savoir comment est-ce qu'il allait incarner, quel visage il allait présenter au monde pour s'afficher comme ce nouveau président des États-Unis, enfin en tout cas un président avec un deuxième mandat qui serait certainement différent du premier. Qu'est-ce que vous avez repéré, vous, dans cette cérémonie d'investiture qui vous a frappé?
C'était un objet sémiologique très riche, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire.
J'avais bien pensé que ça vous inspirerait.
Non, le grand message vraiment fondamental, c'est, alors appelons ça puissance, appelons ça force, mais une démonstration en effet de strength en anglais, vouloir montrer ses muscles. Je crois que là, Donald Trump a montré quelque chose d'extrêmement
spectaculaire. Dans l'engage et dans la gestuelle.
Ah oui, puisqu'il a employé les mots qu'il fallait, y compris ce mot force, je vais y revenir si vous voulez, parce que c'est un mot qui normalement n'a pas sa place dans le système modéré de la démocratie, dans la douceur démocratique. Donc il l'a employé volontairement, bien sûr. Et puis alors sa gestuelle, est, du coup, je trouve qu'elle est intéressante aujourd'hui comparée à celle de Musk. D'une certaine façon, Trump, dans la gestuelle, est beaucoup moins violent, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus harmonieux presque que Musk. C'est-à-dire qu'il dit aussi, je pense, en contraste, qui n'est pas violent. Et je prendrai l'exemple de la danse. La danse, puisqu'il a fait ses pas de danse tout au long de la campagne, qui les a un peu repris dans la deuxième partie de la soirée, après le dîner. Et c'est très intéressant comme figure, parce que c'est ancien, en fait, le roi danse en Europe. Il y a le menuet de Louis XIV, etc. Et c'est un signe, en fait, de civilisation, au sens précisément la violence guerrière, la force masculine guerrière qui sert au combat, à la conquête, c'est en quelque sorte entrer dans le salon des dames. Donc chez lui, il y a cette alternance, je dirais, du saloon et du salon. Et je trouvais que, par contraste avec ce qu'a fait Musk par la suite, et peut-être là, il y a une façon pour Trump de dire « je ne suis pas si violent que ça », paradoxalement.
Et ce paradoxe, vous l'avez observé, parce qu'à l'inverse, le discours, lui, était teinté d'une forme de violence, on va dire, complètement affichée, sans complexe.
Sans complexe. Alors, dans un contexte anti-wokiste, ils se sont beaucoup servis du wokisme, dont on ne sait pas très bien ce que ça recouvre.
Comme repoussoir. Hein,
ouais. C'est un repoussoir, voilà. Dans le monde parfait de Trump, c'est-à-dire dans le Magaland, il n'y a pas, en quelque sorte, d'opposition féministe ou d'opposition anti-colonialiste, etc. Ça, tout ça a été effacé. Dans son monde parfait, il n'y a pas de débat. Donc il y a le règne de la force, il y a le règne d'une volonté très forte, et donc on voit bien qu'on est proche de ce qu'on peut appeler autocratie. La démocratie, c'est le partage des pouvoirs, là, c'est l'exercice du pouvoir d'une force. Et il incarne cette force. Alors, si on fait notre histoire culturelle en Europe, cette force, elle intervient dans nos légendes, nos cosmogonies, nos légendes de création du monde, contre le chaos. Il y a, par exemple, vous prenez les métamorphoses de vide, il y a le chaos règne, dans la Bible c'est pareil, le tohu-bohu règne, et là une force émerge, verticale, civilisatrice, qu'elle soit nommée Dieu ou qu'elle soit nommée en latin la vis, V-I-S, ou les forcia, les forces de la nature. Elle s'oppose à quelque chose qui est liquide. Le chaos, c'est un grand liquide qui ne donne rien. Donc cette force, elle est solide. Et du coup, elle a un pouvoir dans notre imagination. L'imagination humaine, elle est dualiste, elle est simpliste. Elle a le pouvoir de réguler le chaos. Et vous savez bien sûr que le mot chaos est complètement un mot de l'ambiance, du contexte, pas qu'aux États-Unis. Et qui n'est pas valorisé par Trump, même s'il est parfois fauteur de troubles, fauteur de chaos, comme aussi Janvier.
Merci Mariette.
Épisode 5, prise 3.
Pas si simple. Invité du jour, Sylvie Berman.
Sylvie Berman, Donald Trump a beau danser. Mariette nous dit tout de même qu'il présente le visage d'un autocrate. Est-ce que ce terme d'autocrate vous semble ajusté au personnage ?
Oui, je pense qu'effectivement, c'est un autocrate. Peut-être un commentaire sur la danse. Ce qui est quand même amusant, c'est qu'il danse sur YMCA, qui est un hymne gay. Et qu'il a fait venir pour son investiture, Village People, qui avait un peu vieilli, mais qui portait la tenue de l'époque, qui est un peu sans équivoque. Donc tout cela est assez paradoxal. Maintenant, oui, c'est un autocrate, en ce sens qu'il ne veut pas de limite à son pouvoir, et qu'il a signé ses décrets présidentiels parce qu'il considère qu'il légifère de manière absolument personnel. Alors normalement aux États-Unis vous avez des contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs sont précisément le Congrès. Là, le Congrès est à sa main, c'est la Cour suprême. La Cour suprême est également à sa main. Donc pour le moment, il y a peu de limites à son pouvoir. Je sais qu'on parlait souvent de la presse comme d'un quatrième pouvoir. Effectivement, la presse, en tout cas New York Times ou autre, ne lui est pas favorable. Mais vous savez, aux États-Unis beaucoup de gens disent, en fait, les gens sont contents parce qu'ils ont voté contre le New York Times, qui représente les élites et qui est considéré également comme woke.
Alors, juste Sylvie Berman, quand on parle d'autocrate, les pires images de l'histoire nous viennent en tête, évidemment. Est-ce qu'on doit avoir peur, justement, des excès d'un autocrate aujourd'hui? De quoi est-ce qu'il rêve, finalement, Donald Trump, comme ça, en prenant de manière extrêmement personnelle le pouvoir?
Mais en tout cas, son mot d'ordre, hein, c'est « Make America Great Again », c'est de faire des États-Unis une puissance totalement incontestée, même quand elle n'est pas légitime dans ses revendications. Parce que la revendication du canal du Panama, du Groenland,
du Canada,
voire du Canada, n'est effectivement pas légitime. Bon, le Canada, il ne pourra pas faire grand-chose, je pense. Le Groenland, je ne sais pas, mais le fait même qu'il déclare qu'il veut acheter le Groenland, qu'il ajoute que c'est pas très amical de la part du Danemark de lui refuser cela, montre qu'il considère, comme les autocrates du passé, que personne ne doit s'opposer à lui. Bon, maintenant, il y a quand même une vie internationale, il y a quand même un certain nombre de règles,
et ce n'est pas si c'est... Est-ce qu'on doit avoir peur d'une reproduction de l'histoire qui évidemment, est sans doute une des pages les plus sombres de l'histoire?
Tout à fait, mais je pense que ça a posé un gros problème aux Européens en particulier, parce que les Européens, ils se sont construits justement contre le recours à la force. Pourquoi ? Parce que l'Europe a failli se suicider en deux guerres, et justement avec une violence sans pareille. Et pour les Européens, c'est véritablement plus jamais ça. Donc ils ont mis en place un système de coopération entre États, d'abord entre anciens pays ennemis, l'Allemagne et la France, et puis ils ont mis en place un certain nombre de règles, de normes, pour gérer les choses de manière différente. Un ancien collaborateur de Tony Blair disait que l'Union européenne à l'époque était une entité post-moderne dans une jungle internationale où les règles effectivement étaient encore celles de la force contre le droit, alors que l'Union européenne incarne le droit contre la force. Mais ça sera beaucoup plus difficile pour les Européens que par exemple même pour les Chinois, qui sont prêts à résister parce que les Chinois incarnent aussi la force.
Ils sont sur le même dialogue. Vous le disiez à l'instant, on a cette histoire, mais l'Amérique et les États-Unis, dans cette histoire, c'était nos alliés, c'était ceux qui sont venus nous libérer. Est-ce que aujourd'hui, en Europe, on peut se dire que Donald Trump est toujours notre allié?
Alors, je pense que Donald Trump, en tout cas, n'est pas notre ami. Il a dit à plusieurs reprises, déjà pendant son premier mandat, que les Européens étaient des ennemis pires que la Chine, parce qu'ils voulaient du mal à l'Amérique, et tout ça parce qu'il y avait des excédents commerciaux, ou parce qu'ils considéraient qu'on ne payait pas assez pour notre défense, sachant que augmenter le budget de défense signifie acheter des équipements et des avions américains. Donc, ils ne se comporte pas en tout cas comme un allié ou comme un ami. Il y a l'article 5 du traité de l'Atlantique qui est très connu et qui est le fait que l'attaque contre un État est considérée comme l'attaque comme tous les États. Or là, qu'est-ce qu'il attaque le Groenland qui est... et donc le Danemark.
Un mot sur, vous le disiez, ces alliés même en interne, quoi, ces alliés aux États-Unis et puis sa garde rapprochée, ceux qui sont avec lui, qui pourraient servir aussi de régulateur, quoi, du pouvoir. On a l'impression qu'il a pris des clones comme pour s'assurer de la mise en œuvre de son programme et de ne pas être empêché, quoi, dans son projet.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, j'avais écrit à un moment qu'il avait mis des Dracula à la tête de la Banque du Sang dans certains ministères, le ministère de la Défense, le ministère de la Santé avec Kennedy. Et oui, il ne veut pas, cette fois-ci, recevoir des leçons de collaborateurs ou de... ils sont à ses ordres. Alors, ils sont très différents. Il y en a qui ont un profil un peu atypique, d'autres comme Marco Rubio, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, qui est plutôt classique, mais dont Trump s'est assuré de la loyauté. De toute façon, il ne tolérerait pas quelqu'un qui le critique ou qui n'approuve pas ses idées et ses projets. Et encore une fois, il a eu le temps de se préparer grâce au système américain où vous avez plusieurs mois entre l'élection et l'investiture. Il a choisi ses équipes et comme le Sénat lui est acquis, ils ont, même s'il y avait quelques doutes, ils ont reçu l'approbation du Sénat, donc ils sont à ses ordres, tout simplement.
Pas si simple. Thème du jour, Trump, la loi du plus fort.
Si Donald Trump présente le visage d'un autocrate, quelle menace fait-il peser sur la liberté? Ce principe garanti par le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Nous avons recueilli deux avis très divergents de deux franco-américains. Amy Porter est la porte-parole des démocrates en France et Nicolas Conquer, celui du Parti républicain en France également.
Nicolas Conquer, porte-parole des Republicans Overseas.
Pour revenir sur un point de fond de Donald Trump, c'est qu'il veut revenir au principe même de la Constitution américaine. Il croit en ce qui s'appelle le Life, Freedom and Pursuit of Happiness. La vie, la liberté et la quête du bonheur.
Amy Porter, porte-parole des Democrats Abroad en France.
Trump dit qu'il va restaurer les libertés, mais... c'est complètement idiot parce que les libertés ne sont jamais parties. Il donne cette idée que l'administration Biden censurait Facebook quand ils leur ont demandé d'enlever des posts de désinformation autour du Covid. C'est pas de la censure, c'est de la bonne gouvernance.
Donald Trump, alors qu'il était encore président en exercice, s'est vu supprimer son compte sur les réseaux sociaux. Des chaînes nationales de télévision ont coupé les retransmissions de son discours alors que c'était encore le président en exercice. Et ça a vraiment atteint ce qui est un principe sacro-saint aux États-Unis, le premier amendement qu'est la liberté d'expression.
Pour moi, c'est pas une liberté d'attaquer les gens les plus marginalisés, ce qu'il est en train de faire en ce moment, en passant des lois pour dire on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Bannir les livres comme c'est fait aujourd'hui par beaucoup d'États républicains, dont le mien, la Floride, c'est pas la liberté de dire aux gens ce qu'ils ont le droit de lire, ce qu'ils n'ont pas le droit de lire. Depuis des années, il y a des livres qui sont bannis et ça continue aujourd'hui, une nouvelle liste qui sort toutes les semaines, sortir des bibliothèques ou des bibliothèques des écoles, certains livres qui parlent d'homosexualité, par exemple.
Aux États-Unis, dans les écoles maternelles, il y avait des drag time stories, des drag queens qui venaient dans des écoles maternelles vous lire un conte. C'est pas une affabulation, c'est des choses qui existent concrètement et les parents qui venaient s'opposer à ça se voyaient sanctionnés ou exposés publiquement en disant voilà, ils sont contre les LGBT. Avec Donald Trump, on a fait un premier pas vers la victoire dans la guerre culturelle. Ce n'est pas terminé, mais désormais les parents auront la liberté de dénoncer et de communiquer sur les outrages qui vont se passer face à leurs enfants avec cette culture woke et cette idéologie LGBT qui s'est infiltrée dans les écoles.
Il est une menace pour la liberté de prendre ses propres décisions médicales. Aujourd'hui, il y a une vingtaine d'États aux États-Unis où l'avortement est totalement illégal est inaccessible et ils voudraient que ça soit la loi nationale.
En France, l'avortement est autorisé jusqu'à 14 semaines. Il y a des États comme à Washington DC sur lesquels vous pouvez avorter jusqu'au 9e mois. Donc ça pose des véritables questions sur où sont les limites et arrêtons de faire de l'avortement un Graal. Ça répond à une situation de détresse, mais vouloir répondre à ça avec un droit à l'avortement sans limite est absolument honteux et scandaleux.
Trump est quelqu'un de très facile à comprendre. Il va là où il y a son propre intérêt financier, où l'intérêt financier de ses amis, et c'est tout, ça s'arrête là.
Les véritables libertés auxquelles Donald Trump croit, c'est la liberté d'entreprendre. Avant tout, c'est un businessman. C'est quelqu'un qui a envie d'incarner ce rêve américain et de permettre ce nouvel âge d'or américain dont il parle.
Pas si simple. Invité du jour, Sylvie Berman.
Sylvie Berman, on sent que ce thème de la liberté, il est très profond dans la crise que vivent les États-Unis aujourd'hui, la façon dont ils sont aujourd'hui polarisés autour de la personnalité de Donald Trump. Menace pour la liberté. Les mots c'est pas une petite accusation. Et en même temps, lui justifie toute son action par la liberté. Comment est-ce que vous voyez cette question ?
Alors, il y a un terme qu'on emploie aux États-Unis qui est celui de libertarien, c'est-à-dire que la liberté doit être absolue, celle de dire tout et n'importe quoi d'ailleurs, et c'est l'idéologie d'Elon Musk.
Et c'est pas celle que protège justement le Premier Amendement qui...
Bah, elle le protège, mais ça veut dire, bon, il y a des limites en Europe, par exemple, l'appel à la haine, l'antisémitisme, enfin, il y a des règles, effectivement, aux États-Unis, il n'y en a pas. Trump a décidé de supprimer également les vérificateurs de faits, les fact-checkers, et d'ailleurs, certains dans la Silicon Valley s'y sont immédiatement pliés. C'est un sujet qui est difficile, hein, la définition de la liberté, parce qu'en même temps, ben, ils privent les femmes d'une liberté qui est d'être libres de leur corps et de leurs décisions. Donc, c'est assez complexe comme sujet, effectivement.
Mais sur la révolution culturelle là, dont on parle dans le sujet, c'est un peu étonnant, de guerre culturelle, c'est un peu étonnant de voir qu'il y a des livres qui sont interdits. Si la liberté était totale, aucun livre ne serait interdit. Ça choque un peu dans le sujet.
Oui, tout à fait, mais en fait, encore une fois, la liberté n'est pas totale et que chacun interprète la liberté comme il le veut. Pourquoi Elon Musk s'est rallié comme ça à Donald Trump ? C'est lié aussi à la conversion qu'a fait son fils aîné en devenant transgenre ou en devenant, il me semble qu'il est transgenre et pas une fille, j'en sais rien. Mais c'est ça qu'il n'a pas.
Il dit que son fils est mort.
Il dit que son fils est mort et c'est ce qu'il n'a pas supporté, effectivement. Et c'est vrai que parmi les gens qui ont voté pour Trump, il y avait un ras-le-bol du wokisme aux États-Unis, pensant que c'était allé beaucoup trop loin. C'est-à-dire qu'il y avait en fait une forme de promotion des transgenres. C'est une chose de les accepter, bien sûr, puis c'est une chose de pousser aussi à cela. Donc ce n'est pas facile. Et encore une fois, pour revenir alors dans l'autre sens, à l'interdiction de l'avortement, on a eu ça à d'autres époques républicaines que j'ai évoquées tout à l'heure, qu'ils ont fait se retirer de la plupart des organisations internationales qui traitaient de ces sujets. Et Trump, à nouveau, s'est retiré de ces mêmes organisations.
Est-ce que les Américains sont pris un peu à leur propre jeu, disons, comme la liberté d'expression, c'est le Premier Amendement? Est-ce que c'est à la fois une chance d'être libre sans limite et en même temps une menace qu'ils découvrent là, en fait?
Mais je pense que c'est difficile de parler des Américains parce que c'est un pays qui est extrêmement divisé. Vous avez les électeurs de Trump et vous avez les autres, ceux qui penchent plutôt pour les démocrates. Sauf que là, il n'y a pas eu une bonne candidate démocrate, que Joe Biden s'est retiré beaucoup trop tard et qu'ils sont un petit peu sidérés. Il y a un effet de sidération pour les démocrates, mais si vous rencontrez des Américains, beaucoup d'Américains ou d'amis américains qu'on fréquente, ils ne sont pas très trumpistes.
Tout à l'heure, on l'évoquait sur son côté autocrate. On voit que là, il s'entoure de responsables, en effet, de la Silicon Valley, mais qui sont aussi des gens qui ont les clés de l'opinion. Ça, c'est une stratégie de penser qu'éventuellement, c'est à travers les réseaux sociaux qu'il va valider son bilan, ses actions. On sait aussi le mépris qu'il peut avoir pour les urnes et pour la Constitution. On l'a vu avec le 6 janvier avec l'incident du Capitole. Est-ce que vous pensez que là, on a vraiment un risque de remplacer, les urnes par une soi-disant opinion publique qui serait orchestrée?
Je crois que les réseaux sociaux sont dangereux dans beaucoup de pays, parce que vous avez des algorithmes qui ciblent ceux qui pensent de la même manière. Moi, j'ai vécu ça au Brexit, au Royaume-Uni avec le Brexit, qui a été la première crise dans une démocratie représentative. Vous aviez l'utilisation des réseaux sociaux de Cambridge Analytica et qui visait ces populations déshéritées qui ne votaient jamais pour les convaincre que le problème venait de l'Union européenne et de l'immigration et qu'ils devaient voter Brexit.
Je crois que
dans tous les pays, c'est les réseaux sociaux ont un effet démesuré. Là, pour Donald Trump, il y a une chose sur laquelle je suis d'accord, c'est que c'était choquant qu'on lui interdise l'utilisation des réseaux sociaux. Son droit de s'exprimer, bien évidemment.
Et il a su en profiter, ça.
Et il a su en profiter, absolument.
Est-ce que c'est devenu un nouveau lieu de la démocratie, les réseaux sociaux, qu'il est urgent d'investir, et en particulier aux États-Unis, pour le maîtriser, pour réguler cette liberté, justement?
Le problème, c'est qu'aux États-Unis, ils ne veulent pas réguler. Mais même nous qui souhaitons réguler, même les Européens, même les Français, le fait que vous ayez l'anonymat sur les réseaux sociaux qui permet ce phénomène de meute, d'insultes, d'appels au meurtre et autres, moi ça me choque profondément. Les gens assument leur position.
Contrairement au premier amendement qui est la garantie absolue de la liberté, c'est vrai que la culture européenne, c'est de se dire que la liberté engage une responsabilité.
Mais même là, on n'ose pas tout réguler. On n'a pas, ça reste, l'anonymat reste la règle sur les réseaux sociaux. Moi, je me souviens de ce film merveilleux de Clouseau, Le Corbeau. Où il y a une enquête et c'est un délit d'écrire des lettres anonymes. Aujourd'hui, tout le monde écrit des lettres anonymes d'une grande violence.
Pas si simple. Direction, l'Institut d'études politiques de Paris.
La démocratie est-elle en danger avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis et la montée des nationalismes partout en Europe et dans le monde? Se pose la question de savoir comment mener le débat politique aujourd'hui. On va en parler avec les jeunes étudiants de Sciences Po à Paris. Ils ont monté une association, le Parlement des étudiants. Et parmi eux, Mayeul, Laura, Yoni qui nous accueillent à Sciences Po. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Merci de nous recevoir. Où est-ce qu'on va là exactement?
Alors on va dans le campus de Saint-Thomas d'Aquin, qui est un nouveau campus de Sciences Po, où se déroulent évidemment beaucoup d'événements, et notamment des cours et les différents centres de recherche collent, notamment autour des enjeux démocratiques contemporains.
Allez, on s'installe dans une de vos salles de classe, la même où vous préparez les grands débats du Parlement des étudiants de Sciences Po. Est-ce que vous sentez qu'il est urgent de vous engager dans le débat démocratique, de prendre votre part au débat entre l'élection de Donald Trump aux États-Unis, le conflit russo-ukrainien, la guerre au Moyen-Orient, tout cela avec l'influence des réseaux sociaux, évidemment, à votre génération? Est-ce que vous sentez qu'il est urgent, vous, les jeunes, de prendre les choses en main?
En tant qu'étudiante et en tant que jeune aussi, je pense qu'on est beaucoup à utiliser les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il y a déjà ces bulles de filtre où effectivement, on va tous un peu se retrancher dans nos idées préconçues. Et je pense que l'avantage d'une association comme le Parlement des étudiants, c'est aussi de créer un espace où, en dehors de toutes les émotions qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, on se retrouve tous dans une salle, on échange, on en écoute. Et c'est comme ça aussi qu'on recrée du lien et qu'on re-rentre dans une tradition plus démocratique.
Comment est-ce que vous êtes touché par ce qui se passe actuellement dans le monde sur le plan démocratique?
Je pense qu'à la fois, ça peut nous inquiéter sur le futur à divers titres, hein, point de vue géopolitique, climatique, économique, enfin plein de raisons. Mais d'un autre côté, ça nous conforte dans l'idée qu'il faut s'engager, parce que si on ne s'engage pas nous-mêmes, peut-être d'autres s'engageront pour nous. Et après, si on a des désaccords, ben, on ne pourra pas dire que soit on ne sait, soit on ne nous a pas proposé de nous engager. C'est aussi à nous-mêmes de nous saisir de l'engagement. Et quand parfois on n'y pense pas forcément, quand on ne sait pas forcément comment s'y prendre, je pense que des associations comme le Parlement des étudiants qui permettent de rencontrer des responsables politiques ou des personnes qui travaillent au quotidien dans les institutions au sens très large, ça peut être effectivement les médias, le Parlement, le gouvernement, les administrations, ça peut nous donner les clés de l'engagement. Et ça peut nous permettre de faire vivre ce débat démocratique en restant non pas seulement dans le feu de l'action, mais aussi dans un côté analyse plus long terme, aussi rétrospective, et de ne pas faire simplement effectivement l'instantanéité des réseaux sociaux ou les polémiques qu'on peut avoir dans certaines chaînes télé.
Comment vous voulez influencer le débat au-delà même du Parlement des étudiants? Comment votre parole, votre action déjà comme étudiant peut avoir un impact?
Ben, c'est vrai que ces échanges, ça reste comme dans un cercle privé, mais on en parle bien sûr autour de nous, ça nous influence personnellement. Et après, en dialoguant, en essayant d'échanger entre nous, on espère que ces idées feront leur chemin et auront un impact.
On vous parlait déjà presque comme des politiques, hein, les uns et les autres, là. Comment est-ce que vous voulez convertir ce que vous êtes en train de vivre et d'apprendre ici?
Pour moi, c'est très important de garder toujours à l'esprit le pluralisme. Et moi, je pense que ce qui me guide un peu, c'est le secteur des médias, éveiller toujours à conserver cette diversité, cette pluralité dans les médias. Donc, je pense que je vais essayer de faire quelque chose là-dedans.
Épisode 5, prise 5.
Pas si simple. Invité du jour, Sylvie Berman.
Sylvie Berman, on entend ces étudiants de Sciences Po s'investir pour se former au débat démocratique, mais bon, ils sont appelés à avoir des responsabilités justement politiques, en tout cas dans les grandes instances internationales. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui développer comme culture pour s'opposer à une logique, la logique de Trump?
La culture du dialogue, surtout, déjà, ne pas considérer qu'on a automatiquement raison, mais qu'il faut écouter l'autre. Maintenant, s'opposer à Trump, qui justement refuse le dialogue, encore une fois, c'est difficile. On peut le faire par l'argumentation, mais je ne pense pas que ça porte beaucoup. Là, il parle, enfin, ces jeunes étudiants, je trouve que leur initiative est très loin, parle un peu de la situation interne en France aussi, où les débats à l'Assemblée nationale ne sont pas nécessairement extrêmement démocratiques et fondés sur le dialogue et l'écoute de l'autre.
Quel rôle peuvent prendre les jeunes aux États-Unis? On sait que proportionnellement, ils ont été beaucoup plus nombreux à voter pour Kamala Harris. Est-ce que ça peut changer la donne, justement? Est-ce que cette génération-là qui vient, qui s'engage, on le voit bien, alors ça c'est en France, en Europe, mais aux États-Unis aussi, ils sont très présents dans le débat politique. Est-ce qu'ils peuvent porter quelque chose dans le débat aux États-Unis?
Alors on verra, parce que vous avez vu que dans les universités américaines, au moment du 7 octobre et ensuite, il y a eu un certain nombre de mouvements très non seulement hostiles à Israël, mais à la limite de l'antisémitisme, ce qui était quelque chose d'inconcevable aux États-Unis avant. Donc ça ne va pas nécessairement dans le bon sens. On a accusé les universités de wokisme, et quand les présidentes, trois présidentes d'université ont défendu cela en disant que ça dépend du contexte, je pense que c'est problématique aussi. C'est-à-dire que les jeunes n'ont pas toujours raison. Tous les jeunes ne sont pas non plus...
Oui, mais ils sont là pour venir bousculer le système, ils sont là pour déranger.
Peut-être, mais on ne peut pas partir du principe qu'ils ont nécessairement raison. C'est bien que les jeunes s'engagent, mais c'est bien qu'ils écoutent également les autres et qu'ils ne soient pas simplement dans une bulle, pensant incarner le bon droit, la vertu et une forme de supériorité. Le vote aux États-Unis a été un vote aussi contre les élites et contre le mépris des élites. Et quand je parle des élites, c'est les élites politiques, financières, journalistiques, enfin des médias qui sont au pouvoir, Mais c'est la même chose chez des jeunes dans des universités qui ont le savoir que d'autres n'ont pas. Donc ça a été beaucoup un vote contre les élites. Et par ailleurs, moi je me souviens de la première élection de Donald Trump. J'étais à Londres et on voyait beaucoup d'Américains qui passaient, qui participaient à des débats dans des think tanks, qui expliquaient que c'était impossible que Donald Trump soit élu parce qu'il n'aurait jamais le vote des femmes, des Noirs et des Latinos. Eh bien, il a eu les trois et il les a eu encore plus cette fois-ci. Donc on ne peut pas partir du principe que certaines catégories ou sociales ou culturelles ou autres est finalement meilleure que celle de ses aînés.
Madame l'ambassadeur, l'Europe, est-ce qu'elle peut aujourd'hui vraiment être une force régulatrice face à Donald Trump? On voit d'ailleurs qu'elle est très visée, hein, et Elon Musk s'attaque directement, très personnellement, par exemple, à Thierry Breton. Il voit bien qu'il y a un problème. Puis quand il soutient l'extrême droite allemande, c'est aussi certainement pour essayer de dynamiter cette force politique qui est peut-être l'une des seules à essayer d'imposer des normes et d'empêcher ce libéralisme américain.
Oui, tout à fait. Simplement, le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle régule beaucoup, mais qu'elle ne crée pas. Et que si on veut être puissant, il faut avoir ses propres plateformes.
Or, il n'y a que des plateformes.
Il y a le développement d'une technologie européenne, bon, d'une défense européenne, bien sûr. Mais si l'Europe ne crée pas, elle se met dans une situation d'infériorité. Si elle peut réguler, c'est quand elle a le pouvoir. Si elle n'a pas le pouvoir, elle ne peut plus réguler. Et on le voit non seulement avec Musk, mais également les autres plateformes américaines. Donc malheureusement, l'Europe est assez impuissante aujourd'hui, sauf par les mots.
Qu'est-ce qu'il y a comme contre-pouvoir, alors, que ce soit au niveau international, au niveau américain? En fait, Donald Trump ne craint rien ni personne, là.
Ben, pour le moment, il ne craint rien, mais il y a quand même la loi, parce que il a décidé de supprimer le droit du sol, et en fait, il a été désavoué par la justice américaine. Donc, si c'est contraire à la Constitution, il y a toujours cette possibilité-là. Mais si on regarde la décision qu'il a prise concernant l'amnistie pour ceux qui avaient été accusés de participer au 6 janvier, qui est quand même une forme de coup d'État avec recours à la violence. Certains d'entre eux avaient été condamnés à des très lourdes peines parce qu'ils avaient attaqué des responsables de l'ordre, policiers ou militaires. Et libérer ces personnes-là, c'est probablement ce qu'il y a de plus choquant. Donc c'est très difficile de résister à ça. Alors, il y aura des mi-termes en 2026, et beaucoup espèrent que, justement, comme la majorité est légère, ça pourrait rééquilibrer, mais rien n'est sûr. Et puis, on ne peut pas toujours attendre la fois suivante, l'élection suivante. Après sa première élection, tout le monde en Europe a fait le gros dos en disant « c'est pas grave, on va attendre et on reviendra au statu quo ante ».
Ils ont eu cette
illusion avec Biden.
C'est le moment d'accueillir maintenant Isabelle et de lui laisser la parole.
Pas si simple. Thème du jour, Trump, la loi du plus fort. Présenté par Éric Payet, Étienne Pépin et Isabelle de Golemin. Invité, Sylvie Berman.
Allez, on est prêts.
Sylvie Berman, merci de cette présentation. J'ai trouvé que ce qui m'a frappé peut-être le plus dans tout ce que vous avez dit, c'est que vous avez été très nuancée. En fait, on sent que vous n'avez pas envie de diaboliser ni Trump, ni le système Trump, et que vous, voilà, vous vous dites toujours oui, mais pourquoi est-ce qu'on a voté pour lui ? Finalement, il y a aussi beaucoup de déceptions, beaucoup d'amertume dans ce nombre de classes moyennes, de classes populaires aux États-Unis. Donc je trouve intéressant, et de fait, c'est pas si simple. Donc c'est bien l'objectif de l'émission. Et une première question que j'aimerais vous poser, c'est que vous êtes donc Madame l'ambassadeur, donc vous êtes une femme. Et moi, quand je regarde aujourd'hui la scène internationale, j'ai le sentiment qu'on revient un peu en arrière, comme dans les cours de récréation quand j'étais petite fille, où il y avait les petites filles d'un côté, les garçons de l'autre, et qui montraient les points, et qui finalement, il n'y avait qu'eux qui tenaient la cour. Nous, on était... voilà. Et c'est vrai que là, c'est une diplomatie. Est-ce que c'est une diplomatie, d'ailleurs ? Peut-être on en parlera. En tout cas, c'est très masculin. Alors, il y a des femmes qui sont masculines, en tout cas c'est très viril, il y a un côté justement le droit du plus fort. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous frappe aussi ? Est-ce que vous avez le sentiment que d'un seul coup, on a beaucoup parlé du care, on avait beaucoup parlé de la féminité ces dernières années, et là d'un seul coup on revient dans un truc finalement très années 50 quoi.
Oui, tout à fait. Oui, on parle souvent de masculinisme d'ailleurs, ou de virilisme chez ces hommes forts, que ce soit Donald Trump ou Vladimir Poutine. Même chose, absolument. Je crois qu'effectivement, on retourne à une forme de nationalisme, bien sûr, d'impérialisme. Et à partir du moment où c'est la force, c'est plus effectivement, on peut se dire, un comportement très très masculin, même si il y a eu des femmes fortes avec Golda Meir par exemple,
Et justement, selon vous, est-ce qu'on est encore dans la diplomatie? Parce que finalement, la diplomatie, c'est quand même l'art de ne pas faire la guerre, et c'est l'art de trouver des compromis, c'est l'art de s'écouter quand même. Et donc là, est-ce que finalement, on n'est pas passé dans un monde qui n'est plus un monde de diplomatie, où la diplomatie n'a plus sa place, ou c'est une autre forme de diplomatie?
Alors, je pense que la diplomatie retrouvera sa place de toute façon, mais il y a cette brutalité, effectivement, et cet impérialisme de Donald Trump, en même temps, il ne veut pas être engagé dans des guerres, et il veut faire la paix au Moyen-Orient et en Ukraine. Et il y aura bien, d'une certaine manière, un recours à la diplomatie.
Et parce que si je reprends mon image de la cour de récréation quand on était petit, il y avait aussi des choses qu'on faisait beaucoup à une époque. C'était, on nous apprenait à lutter contre la violence nous-mêmes, on nous éduquait à la paix. En tout cas, comme diplomate, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des attitudes qu'on peut avoir qui pourrait désamorcer quelque chose? C'est un peu ce qu'Emmanuel Macron a essayé de faire une fois ou l'autre par rapport à Trump ou à Poutine. Ça n'a pas très bien réussi. On se souvient de contacts comme ça un peu forts. Est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'il y a, rien que par le langage, par une manière d'être, on peut arriver à désamorcer des choses ou pas?
Alors, il y a un lieu de discussion qui, pour le moment, est tenu complètement à l'écart, c'est les Nations Unies. Parce que c'est là qu'on rencontre tout le monde, on parle avec tout le monde et on négocie. Aujourd'hui, les Nations Unies sont complètement marginalisées, mais il faudra y revenir un jour, élargir le Conseil de sécurité pour que ce ne soit pas uniquement les représentants des vainqueurs de 1945. Mais si vous essayez d'être diplomate avec Trump, ça ne changera pas grand-chose.
Donc, en fait, c'est intéressant pour vous. Finalement, la solution, c'est peut-être de refaire de nouvelles Nations Unies qui représenteraient plus le monde d'aujourd'hui, avec ses différences, le Sud, qui effectivement n'est pas forcément bien écouté, qui permettrait de remettre un vrai multilatéralisme.
Oui, je pense qu'il faut quand même cette instance internationale qui puisse à la fois dire le droit et essayer de faire régner la paix et la sécurité internationale. Ça me semble indispensable. Cela dit, les Américains n'ont absolument pas besoin des Nations Unies, donc ils ne s'y intéressent pas beaucoup. C'est une grande puissance, c'est un État continent, et je pense que les Européens n'ont pas assez mesuré ça. dans l'ensemble du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces puissances impérialistes sont des États-continents.
En fait, les Européens, ils ont fait comme si tout le monde était comme eux. Bon, c'est ça?
Oui. Oui, absolument.
Oui, et puis peut-être qu'il y a toute cette confusion autour d'Européens occidentaux, un système occidental qui serait le meilleur. Et là, mais là, vous ouvrez une porte immense pour un nouveau monde à reconstruire, en fait, qui ne serait plus guidé par ce leadership occidental, en fait.
Ouais, on a perdu le leadership occidental. C'est-à-dire qu'on a perdu, en tout cas, le monopole du pouvoir. C'est ce que dit un grand penseur singapourien, ancien diplomate, Kishore Mahbubani, qui a beaucoup écrit là-dessus, dans des livres qui ont été traduits en France également. Oui, on a perdu ce monopole du pouvoir, mais on a toujours le sentiment d'être au centre du monde. Donc, il faut qu'on arrive effectivement à s'ajuster à une nouvelle situation internationale.
Il faut qu'on se renverse, finalement. Merci.
Qu'on se décentre.
Et si j'ai bien compris, en fait, la discussion, non seulement Donald Trump danse, mais il mène la danse.
Pour le moment, oui.
Merci beaucoup, Sylvie Berman. Merci, Isabelle. Merci, Étienne. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur la plateforme du Jour du Seigneur, GDS.tv, sur le site de RCF et sur celui des Semaines Sociales de France. Nous vous disons à très bientôt.
Pas si simple. Trump, la loi du plus fort ? Un podcast produit par Le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines Sociales de France. Présenté par Éric Paillet, Étienne Pépin, Isabelle de Golemin. Réalisé par Georges de Genevray. Prise de son, David Sandras, Laurent Schwartz. Reportage, Geoffrey Defèvre, Étienne Pépin, Jérôme Tournier. Montage son et mixage, Benjamin Alves. Voix off, Lison Riss. Documentation, Claire Latuile. Production, Frédéric Niquet-Châtelet. Archives, France Info, France Télévisions, Troisième Œil Productions, France Inter, CNews, RTL, BFM TV, RMC. Musique, Mima Musique.
Dans un instant, ouvrez le dialogue avec Montserrat Avidal.
Oui, deux philosophes sont avec moi aujourd'hui pour parler de Simone Veil, la grande philosophe, Pascal David et Jean-Marc Guitti, pour leurs ouvrages respectifs.
Dans et sur mes bras, au parchemin de ma peau, gravé à l'encre d'amour, j'ai paraffé le plus beau, et ce qui restera. Dedans et sur mes bras, signature indélébile sur le contrat de nos jours, ma peau deviendra fragile, mais vous y resterez. C'est là que vous êtes. vous êtes tendre et sur mes bras.
C'est là que vous êtes.
C'est là que vous êtes. Vous êtes tendre et sur mes bras.